Et il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Cette semaine s'est donc ouvert le procès Weinstein. Et bien sûr que depuis 2 ans, la parole s'est libérée. On en a fait maintes émissions ici même. Il y a l'affaire Weinstein. Il y a tout ce que la parole d'Adèle Haenel a provoqué, qui a bousculé le cinéma français. Il y a ce livre aussi signé Vanessa Springora qui bouscule toute l'édition aujourd'hui. Chacune de ces prises de parole est différente. Mais il y a un point commun. Partout, les femmes qui parlent aujourd'hui ont du pouvoir. Ce sont des femmes puissantes, pour paraphraser une émission déjà très écoutée chez nous sur France Inter. Pour que Weinstein tombe, il a fallu Gwyneth Paltrow, il a fallu Rose McGowan, il a fallu Salma Hayek. En France, Adèle Haenel donc est l'une des jeunes actrices qui l'a le plus en vue. Et quand elle parle, voilà que ses propos font société. Vanessa Springora est une éditrice, patronne des éditions Julliard. La parole s'est libérée, les femmes brisent le silence, mais au fond, quelle femme ? Faut-il avoir du pouvoir pour être non seulement vue, mais surtout entendu, pour que les parquets se déclenchent tout seuls sans même dépôt de plainte? Faut-il que le pouvoir s'inverse pour qu'enfin la société avance? Selon que vous serez puissante ou misérable, c'est le thème du téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec une question reçue sur le hashtag Telson. Laissez-moi mettre mes lunettes avant de vous présenter les invités. J'ignore s'il s'agit d'une question de puissance, nous dit Margot, mais les risques sont tels, y compris lorsqu'on est identifié sur des sujets féministes et de lutte contre les violences. Aucune d'entre nous n'est à l'abri. L'accès médiatique est à la fois un biais dans la visibilité, mais c'est aussi une pression supplémentaire. Le jugement devient double, l'inversion de la culpabilité tellement perverse. C'est avec ça que je voudrais qu'on commence. Bonsoir à vous, Zoé Royan. Vous êtes avocate, vous êtes porte-parole de la Fondation des Femmes. Et bonsoir Françoise Brié, vous êtes directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère le fameux 3919, le numéro de téléphone pour les femmes victimes de violences. J'aimerais qu'on essaye de répondre à Margot, si vous le voulez bien. La visibilité, oui, bien sûr que ça aide. Et en même temps, c'est un terrible double tranchant. C'est aussi ce qu'elle nous dit quand, au fond... elle essaye de répondre à notre question. Qu'est-ce que vous en dites? Allez-y, je vous en prie, l'une après l'autre, ou l'une et l'autre.
Non, oui, la visibilité, évidemment, c'est important et c'est essentiel. Je pense que les violences ont tellement été invisibles et que les victimes, et que les femmes puissent effectivement s'exprimer en public et y compris... à visage découvert et non dans la confidentialité, ouais. c'est essentiel. Après, évidemment, ça peut être aussi très lourd et risqué, et parfois aussi avec des retours de bâton quand on a des réactions aussi, y compris sur les réseaux sociaux, qui peuvent être très violents et renverser aussi parfois la responsabilité sur les victimes.
Zoé, est-ce qu'on parle de visibilité au fond, ou est-ce qu'on parle de statut social et de difficulté quand on n'a pas de statut social? Est-ce que c'est ça aussi que ça veut dire, en creux derrière la question de Margot?
Oui, ce que ça veut dire, c'est quand on n'a pas de nom de famille, on est moins entendu et moins écouté, et surtout, ce qui est terrifiant, c'est que le parquet ne se saisit pas d'office alors qu'il a le droit de le faire pour les femmes qui n'ont pas de nom de famille, en tous les cas pas un nom de famille connu. Donc c'est peut-être ça qui est terrible. Après, qu'elle soit Adèle Haenel ou qu'elle soit Adèle, c'est une victime. Et donc d'être une victime n'est jamais une situation qui est enviable. Et donc elle est forcément traumatisée. Et ce qui est difficile pour elle en l'occurrence là, c'est que forcément les faits qu'elle dénonce sont immédiatement sur la place publique. Et ça reste une forme c'est très difficile de se livrer sur ce qu'on a vécu, cette intimité imposée, mais c'est difficile d'en parler comme ça. Donc c'est très courageux de sa part, c'est très courageux de la part des victimes de franchir de toute façon le pas des commissariats, la porte des commissariats et de prendre la parole.
On parle aussi de la force de répondre aussi. On parlait des attaques sur les réseaux sociaux à l'instant, mais il faut être sacrément accroché. Donc peut-être qu'il faut effectivement avoir déjà ce pouvoir, y compris celui qu'on a l'impression qu'on possède soi-même pour avoir le courage de se dire voilà ce que je vais me prendre aussi derrière sur la tête.
Oui, après, je pense que la question aussi, c'est de le penser aussi collectivement. C'est-à-dire, ce pouvoir des femmes, il est aussi aujourd'hui un pouvoir collectif. C'est comment on voit effectivement à travers les manifestations, les rassemblements, les victimes qui se connectent finalement entre elles sur les réseaux sociaux. C'est là aussi où on voit la force aussi d'être ensemble contre les violences à l'encontre des femmes, et comment les victimes peuvent aussi, avec le soutien aussi des professionnels et des associations, devenir une force très importante.
Le jugement devient double, c'est ce que dit Margot Zoré Royau. Moi, je trouve ça intéressant, cette idée qu'à la fois, non seulement il y a le jugement de la société, puis il y a tout ce qui peut y avoir derrière dès lors qu'on est sorti, en fait, qu'on est sorti du lot.
Ouais, enfin, on voit, les chiffres sont assez parlants. On voit en matière de violences sexuelles qu'en 2016, 78% des victimes de violences sexuelles ne voulaient pas aller déposer plainte. Ce que ça dit à ce moment-là, c'est la peur de ne pas être crue, principalement. C'est la raison. Et donc, le jugement qui est double, c'est aussi le jugement de la justice. Et avant qu'elle puisse se prononcer, c'est les policiers et les gendarmes qui considèrent que les faits ne sont pas assez graves ou pas caractérisés, qui refusent de prendre les plaintes alors que la loi leur impose de le faire.
C'est le sens de la question de Carole de Besançon qui nous dit « J'ai été frappée par le titre de votre émission et je me demande si la grande différence, au fond, entre les anonymes et les célèbres, c'est pas que les célèbres sont crus systématiquement, ce qui n'est pas le cas du lot, dit-elle, des anonymes. »
Oui, je pense que c'est assez vrai. Alors, toutes les femmes ne sont pas, enfin, certaines sont crues et des affaires vont jusqu'à des jugements et des condamnations.
Bien sûr.
Mais c'est ça qui est difficile et c'est plutôt là-dessus qu'on devrait réfléchir ensemble. En tout cas, la justice devrait réfléchir sur comment rassurer, parce que Adèle Haenel, au départ, elle le dit, la justice s'intéresse pas à nous, on ne s'intéresse pas à elle. Elle dépose plainte parce que finalement, le parquet se saisit et décide d'ouvrir une enquête. Donc là, entendue par les services de police, elle décide de déposer plainte. Mais jusque-là, elle n'avait pas confiance en la justice. Et c'est à la justice de tendre la main vers les victimes et de les rassurer sur le fait qu'elles peuvent être crues. Alors après, est-ce que les plaintes, est-ce que les preuves seront réunies? Est-ce qu'on arrivera à aller jusqu'à une audience? C'est une autre histoire. Mais déjà que la parole qui se libère puisse être entendue et reçue à la hauteur de ce que les victimes méritent, ça c'est une vraie question, et c'est un challenge aujourd'hui, je pense, pour la justice française.
Et puis peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on remarque aussi que finalement il y a aussi une recherche de différentes victimes. On sait très bien que en particulier dans le cadre des violences sexuelles, ce sont souvent des agresseurs qui ont fait plusieurs victimes, et on voit bien aussi, y compris, que les services de police ou les dans le cadre de leurs enquêtes demandent effectivement à d'autres victimes de se manifester, ce qui était certainement en tous les cas moins important avant cette période.
C'est Mathilde qui est à Nîmes et qui rebondit au fond sur ce que vous venez de dire, Zoé Royau, et qui dit: comment la justice peut-elle déclencher des procédures même sans plainte alors qu'elle tarde tant à lancer des procédures lorsque la victime porte plainte? Elle fait référence au fait qu'effectivement c'est le parquet qui se déclenche sur l'affaire Adèle Haenel, mais c'est aussi le parquet qui se déclenche d'ailleurs aussi sur Vanessa Springora. Donc le sentiment que peut avoir Mathilde et d'autres qui nous écoutent, c'est que comment, mais moi j'ai mis un temps fou à arriver jusqu'à la plainte, là le parquet est capable de se déclencher seul.
Bien sûr, mais alors le temps fou qu'on met jusqu'à la plainte, c'est aussi tout d'un coup la décision d'aller de passer la porte d'un commissariat. Donc ça met du temps aussi. Mais une fois qu'on le fait, effectivement,
une fois qu'on le fait, le parcours du combattant n'est pas terminé.
Bien sûr, le parcours de la combattante ne fait que commencer en réalité. On répète 15 fois ce qu'on a pu vivre, on est confronté à l'auteur, et ce qui est compliqué dans ce genre de dossier, c'est que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, donc nécessairement la recherche de preuves va mettre du temps et la procédure effectivement se lance. Mais en revanche, que le parquet puisse se saisir d'office, ça serait assez formidable. Et surtout, aussi une chose qu'on doit pouvoir entendre, c'est que la justice arrête d'exiger des victimes qu'elles soient parfaites. Parce que c'est ça qu'on attend d'elles, qu'elles soient parfaites. C'est aussi pour ça que beaucoup de dossiers sont malheureusement classés sans suite. Il y en avait 60% qui sont classés sans suite en 2016.
Mais est-ce qu'il y a plus d'indulgence, du coup plus de droit à l'erreur? Effectivement, on n'a pas besoin d'être parfaite quand on est Adèle Haenel, que quand on est Adèle, quand on est Vanessa Springora, que n'importe laquelle d'autre, plus que n'importe quelle autre.
Alors, enfin, oui, Vanessa Springora aujourd'hui, parce qu'à l'époque elle était Vanessa, et le parquet qui était informé, tout le monde savait quelles étaient les pratiques pédocriminelles de Matzneff, et personne ne s'est saisi à l'époque. Il a été convoqué par la brigade des mineurs, et pour autant le parquet ne s'est jamais intéressé à cette affaire-là. Donc ça interroge aussi beaucoup.
Mais si, selon vous, sincèrement, si elle avait été Mathilde ou je ne sais même écrit ce livre, une fois ce livre écrit, en fait.
Vous avez raison, parce que le parquet nous dirait: écoutez, il n'y a pas de plainte de la victime, je ne peux rien faire, ou la victime a retiré sa plainte, je ne peux rien faire à ce moment-là, bien sûr. C'est une façon aussi d'écrémer les dossiers. Les parquetiers sont débordés. C'est une façon de faire un tri naturel.
C'est pour ça que le collectif est important.
Bien sûr.
Effectivement, la recherche d'autres victimes peut, en tous les cas sur des victimes qui sont moins connues, peut aussi faciliter après les procédures judiciaires, en tous les cas les enquêtes.
Pardon, on a cette question, je vous ai interrompu, pardon.
Non, non. Non.
On a cette question qui dit, est-ce que le statut social disparaît dès lors que le procès commence? C'est-à-dire une fois que, c'est ce que je comprends en tout cas de cette question, une fois que les choses sont enclenchées, est-ce que ce qu'on est en train de dire sur les différences de pouvoir, les différences de relations, y compris entre la victime et et le prévenu, est-ce que toutes ces différences-là s'estompent une fois qu'un procès peut avoir commencé? Est-ce qu'on retourne sur un pied d'égalité ou pas du tout? Zoé Royaux.
Non, je pense pas. Je pense que la justice a aussi conscience des noms de famille et des spotlights des médias. Donc non, je ne pense pas que la justice soit tellement différente. Est-ce qu'elle serait plus à charge ou à décharge? C'est autre chose, mais non, je pense pas. Je pense qu'il y a une justice des puissants et des puissantes et une autre justice.
Juliette Anime nous dit, est-ce que la multiplication des témoignages de ces personnalités a une incidence sur la pratique des policiers ou de la justice? Est-ce qu'il y a une meilleure écoute? À votre avis, quand il y a eu quelque chose d'aussi médiatisé qu'on en entend parler, est-ce que ça apprend des choses, au fond, à ceux qui écoutent?
Ça apprend et ça impose des choses, je pense. Ça apprend parce que, d'abord, il y a les formations qui se mettent en place, là, des professionnels, donc qui sont peut-être plus attentifs, et puis ils font peut-être plus attention aussi, de manière un peu forcée, mais c'est pas plus mal, à la limite, c'est tant mieux si les victimes peuvent en bénéficier. Moi, je vois bien que l'écoute est un peu différente, même pendant les audiences. C'est pas parfait, la justice est humaine, donc elle est faillible. Hein. La loi est toujours bien faite, la loi a été bien faite aussi à l'époque des faits subis par Vanessa Springora, c'est juste l'application par les magistrats qui pose une difficulté, ou par les policiers.
Et après, je pense qu'il faut aussi aller encore plus loin, effectivement, la formation, mais où il faut aussi vraiment des brigades spécialisées dans les enquêtes. Voilà, c'est vrai qu'on a souvent demandé associations justement à ce qu'on ait une spécialisation avec des policiers et des gendarmes qui soient vraiment dédiés à ces questions, voilà, pour qu'on puisse vraiment avoir des enquêteurs et des enquêtrices qui soient très impliqués dans les représentations, qui décryptent aussi le langage des victimes qui peut être très très difficile parfois, et derrière aussi qu'on ait au niveau des juridictions des spécialistes, des juridictions spécialisées pour que les enquêtes aillent beaucoup plus vite et qu'on ait vraiment dans tous les cas un suivi dans ces dossiers qui peuvent être très longs et des procédures très longues. On va avoir un peu plus de rapidité, on l'espère, en chambre d'urgence, mais voilà, il faut aller encore plus loin et qu'on vraiment qu'on prenne aussi la mesure de l'ampleur de ces violences qui méritent ce qu'on consacre une partie des moyens, en tous les cas, à ces dossiers.
Je pense au pouvoir que peuvent avoir effectivement ces femmes-là qui prennent la parole quand elles ont une notoriété, un aura qui est différent. Est-ce qu'elles sont réellement prescriptrices? C'est-à-dire dans tous les sens du terme, à la fois parce que désormais, donc, on sait mieux écouter, parce qu'on a entendu ces paroles-là qui étaient des paroles construites de la part de gens qu'on connaît ou qui sont célèbres, connus, actrices ou peu importe. Est-ce qu'elles sont prescriptrices en ce sens-là? Est-ce qu'elles le sont aussi pour vous? Est-ce qu'il y a une avalanche d'appels au 39-19 après une Adèle Haenel, après une Vanessa Springora, après une Salma Hayek, après toutes celles-là, en fait?
Je pense que l'augmentation, effectivement, des appels, que ce soit au 39-19 ou sur d'autres lignes, comme du collectif féministe contre le viol, ou la VFT, ont été effectivement majeures depuis 2007. On a effectivement, surtout sur les violences sexuelles, mais aussi toutes les autres formes de violences. Donc évidemment que cette parole, et de toute façon tout événement qui va mettre sur la place publique et qui est dans les médias, les questions de violence, quelles qu'elles soient, vont faciliter aussi la prise de parole d'autres femmes qui peuvent se dire, finalement, si de telles personnalités sont atteintes et touchées par ces violences, et que moi je l'ai été, je peux aussi m'exprimer et en tous les cas aller chercher du soutien là où il existe, bien sûr.
Pardon, allez-y.
Oui, on nous dit que depuis MeToo, il y aurait 30% de plaintes en plus. Ouais. Alors, malheureusement, pas 30% de policiers et de gendarmes ou de magistrats supplémentaires pour les traiter.
C'est l'activité d'écoute qui augmente de 30%. Donc, effectivement, c'est pas pareil, mais enfin, c'est déjà ça de prix.
Ouais. Mais il y a plus de plaintes et donc ça libère une certaine forme de parole. Et puis, la honte et la culpabilité qui peuvent être sentie par les victimes, peut-être que tout d'un coup, de se dire que c'est pas elles qui sont faibles puisque ça arrive à des femmes qu'elles considèrent comme puissantes, ça peut aussi rassurer. En fait, personne n'est malheureusement à l'abri de ce type de fait. Et peut-être que c'est important que ce message-là puisse passer aussi, bien sûr. C'est toujours C'est toujours bien que la parole se libère partout.
Et ce qui est important de dire, c'est que quand on va entamer une procédure, quelle qu'elle soit, c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur voilà, des structures, des professionnels, parce que c'est vrai qu'on sait que le parcours est souvent compliqué. Et donc c'est ça aussi le message, c'est-à-dire que les femmes peuvent aussi compter sur les associations, sur les professionnels impliqués qui vont les soutenir aussi dans toutes leurs procédures, même si, voilà, pour leur permettre aussi d'aller au bout de ces procédures qui sont souvent très longues et complexes.
Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une forme de responsabilité au fond, Zoé Royaux, de la part de ces femmes-là lorsqu'elles sont, alors je mets des guillemets puissantes, peu importe comment on les qualifie, mais la responsabilité, c'est si ça vous est arrivé, vous pouvez le dire tellement plus facilement que moi, que allez-y, est-ce qu'il faut embrasser cette forme de responsabilité selon vous ou pas?
C'est compliqué parce que, encore une fois, Adèle Haenel, quand elle prend la parole et quand elle participe à cette enquête de Mediapart, elle est avant tout cet enfant mineur qui est victime de ces faits.
Donc, et c'est pas plus simple de parler de ces faits-là quand on est quelqu'un de célèbre, donc, etc., que quand on ne l'est pas, là-dessus, on est d'accord.
Ouais. Donc je sais pas, et quand elle lit la lettre qu'elle a écrite à son père, elle est cet enfant qui est face à un père qui lui impose un silence, donc... En fait, ça paraît peut-être plus simple parce qu'elle a plus d'appui. Évidemment, elle, si Mediapart veut faire une enquête sur elle, c'est parce qu'elle s'appelle Adèle Haenel et pas juste parce qu'elle s'appelle Adèle. Et qu'en face, c'est Christophe Rougia, ça c'est évident. Mm-hmm. Donc elle a ces moyens-là, cette tribune-là. Mais ses mots, la façon dont elle parle de ce qu'elle a vécu, c'est exactement comme si elle s'appelait juste Adèle, en fait.
Raoul est là au 01 45 24 7000. Bonsoir Raoul.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
J'ai pas de questions à poser, mais je vous ferai très rapidement quelques remarques qui m'ont choqué. Il a fallu 30 ans pour que Gallimard sorte les livres de vente. Il n'y aurait pas le livre qui est sorti mercredi dernier. Gallimard a laissé les livres de vente. Il a fallu 30 ans pour que le ministère de la Justice ouvre une enquête. Il a fallu 30 ans pour que le ministère de la Culture ouvre un dossier pour se poser des questions si on va supprimer la retraite. Il a fallu 30 ans pour supprimer une décoration honorifique, etc. Et n'importe quel Pékin qui traverse en dehors des clous, il passe en correctionnel, et il y a un monde littéraire, il y a 30 ans, tout le monde savait, tout le monde a fermé les yeux et les oreilles, et 30 ans plus tard, on se dit, tiens, il y a peut-être un problème avec les filles mineures. Et entre parenthèses, l'auteur, l'écrivain a dit, des mamans savaient que des filles de 15 ans couchaient avec des écrivains, et elles étaient plus ou moins fières que des gamines de 15 ans couchent avec un écrivain. Et il a fallu 30 ans pour qu'on sache ça.
Pardon, c'était la fin, Raoul.
Voilà, d'accord. Mais j'aurais pu continuer, mais je...
Non, mais c'est bon. Mais j'ai bien compris, pardon. Je voulais pas vous interrompre, j'ai juste été surprise. Je voulais pas vous interrompre si vous aviez encore autre chose à dire. Merci beaucoup, en tout cas, de votre témoignage. Forcément, évidemment qu'on allait aller sur ce terrain-là. Et évidemment que c'est la chose la plus incompréhensible, qu'on comprend d'ailleurs quand on lit Vanessa Springora, qui sera l'invitée de Laura Adler dans un instant. Mais on le comprend, quand on la lit, c'est toujours évidemment très difficile de réaliser. Il a raison, Raoul, sur le fond.
Il a raison, Raoul, parfaitement. Il a raison sur l'attitude de Gallimard qui suspend la publication du journal de Matzneff. Il a raison sur cette allocation annuelle qui serait retirée éventuellement au ministère de la Culture. Évidemment qu'il a raison, tout le monde savait. Et ce qu'on ne peut pas retirer à Matzneff, c'est qu'il ne s'en est jamais caché. Et donc on savait très bien quelles étaient ses pratiques à l'époque. Et le parquet aurait pu se saisir aussi, donc je suis d'accord. Et c'est ce qu'on dit, est-ce que c'est le procès d'une époque ou pas. La loi n'était pas plus tolérante, encore une fois, face à ces faits-là, il y a 30 ou 40 ans, bien sûr. Donc ça pose une vraie question.
Françoise Brié.
Oui, et puis je pense qu'on est à une étape aussi de dénoncer la pédocriminalité aujourd'hui. Après, les femmes adultes, on voit aujourd'hui qu'on a effectivement une nouvelle étape sur les jeunes femmes, les très jeunes femmes, voire les enfants. Et là aussi, on a encore une marge importante aussi. Et je pense qu'effectivement, que ce soit débattu et dénoncé par des personnalités connues, montre à quel point ce phénomène était un phénomène encore plus toléré qu'aujourd'hui.
Oui. Mais ce que ça dit aussi plus largement que Matzneff, ça dit que en réalité, assez régulièrement, quand les accusations comme celle-là tombent, on se rend compte que le premier cercle ou le second cercle était au courant et que personne n'est vraiment très étonné. C'est ce qui se passait avec l'affaire DSK, l'affaire Baupin, les gens savaient, etc. Donc c'est plutôt ça qui pose un problème. Et si aujourd'hui on pouvait tirer un constat et une leçon de ça, c'est de
se dire... Mais au fond, avec l'affaire Haenel aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des gens du tournage qui ont témoigné derrière. Donc
bien sûr, et qui savaient, qui se doutaient, qui ont détourné les yeux, qui étaient admiratifs ou qui étaient un peu trop là. images pour. Mm. Et si aujourd'hui on pourrait tirer un enseignement, ça serait de se dire qu'il faudrait que tout le monde se sente concerné, que c'est une responsabilité qui est collective et qu'on ne peut pas détourner les yeux.
Mais peut-être que c'est ça qu'on a gagné, non? Est-ce que c'est pas aussi ça qu'on a gagné ces deux dernières années? Toutes ces affaires sont très différentes et en même temps elles sont très connexes. C'est de réaliser qu'il y a beaucoup de gens autour effectivement qui sont dans cette espèce de d'aéropage et que le regard des autres change et que c'est l'affaire de tout le monde. Est-ce qu'on n'a pas quand même gagné ça, à minima?
C'est possible, et ce serait pareil en matière de violence conjugale, c'est à souhaiter aussi que ceux qui peuvent être témoins peuvent saisir la justice, saisir la police et la gendarmerie, se sentir concernés. C'est l'affaire de tous et de toutes. C'est peut-être qu'on a gagné ça. C'est pas, à mon avis, c'est pas encore...
C'est pas gagné,
c'est pas total, mais le chemin est peut-être en cours,
c'est en marche. Oui, les violences font peur, les violences gênent, donc il faut aussi aller au-delà. Et puis je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que la question de ces violences, on entend aussi des actrices qui disent que maintenant, quand elles vont à des castings ou des auditions, elles ont l'impression aussi que les choses ont évolué et qu'il y a quand même, en tous les cas, une vigilance beaucoup plus importante qu'elle n'existait auparavant. Donc au moins, on espère en tous les cas que cette évolution va durer et en tous les cas, on espère en ce sens.
On a cette question sur le hashtag Telson. J'ai lu que statistiquement, les femmes cadres portent moins plainte parce qu'elles ont plus accès, elles ont plus facilement accès, notamment à des aides psychologiques. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez? Je comprends dans l'idée qu'on a moins besoin d'aller vers le procès parce qu'on peut se soigner par ailleurs. Enfin, j'y mets des guillemets, mais c'est un peu ce que je comprends dans le sens de la question.
Je pense que c'est plutôt la question des moyens socio-économiques qui permettent à ces femmes de sortir de la violence beaucoup plus tôt, puisqu'elles peuvent quitter le conjoint violent, obtenir un logement avec des salaires effectivement qui peuvent leur permettre aussi d'être beaucoup plus autonomes, alors que la précarité va laisser les femmes dans des situations et des facteurs aggravants qui vont ne pas leur permettre de quitter cette violence beaucoup plus tôt, et y compris aussi dans leur procédure judiciaire. Mais en tous les cas, non, j'ai pas cette impression qu'elles déposent moins plainte.
On a cette auditrice aussi avec le hashtag Telson qui veut revenir sur l'affaire Masneff et qui nous dit, c'est plutôt dans votre direction que ça va, Françoise Brier, qui dit les associations, pas seulement l'entourage, donc en réponse à ce qu'on disait à l'instant, les associations avaient aussi lancé des appels, protesté, notamment au moment du prix Renaudot. On pense à la Ligue française du droit de l'enfant, etc. Nous dit cette auditrice, on parlait de l'entourage à l'instant. Il n'y a pas que l'entourage, c'est pas seulement l'entourage, c'est aussi ces associations-là, donc des associations peut-être éventuellement comme la vôtre. Est-ce qu'il y a, y compris de votre côté, une manière plus, j'allais dire agressive, c'est pas le mot que je cherchais, une manière plus de rentrer dedans, en tout cas de pousser lorsque la justice n'est pas, selon vous, assez rapide? Est-ce que ça aussi, on l'a gagné depuis ces deux dernières années?
Je pense qu'il y a effectivement une nouvelle force aussi de la part des associations qui se réunissent ensemble, voilà, pour faire des rassemblements, des manifestations, pour mobiliser aussi autour de la législation. On voit que ces forces qui, à un moment donné, dans cette période, voilà, ont aussi protesté, peut-être avec moins de résultats qu'aujourd'hui. Et effectivement, en tous les cas, nous, on a aussi d'autres modèles d'action qui sont, par exemple, d'être partie civile aux côtés des victimes, d'être aussi à leur côté dans leur procès, justement, pour décrypter aussi les violences, décrypter la stratégie de l'agresseur et se mobiliser aussi à leur côté. Donc ça aussi, c'est une force aussi pour toutes les associations, d'ailleurs, qui s'engagent contre les violences à l'encontre des femmes.
Nina, bonsoir.
Oui, bonsoir et bonne année à tout le monde.
Bonne année à vous, Nina. Soyez la bienvenue.
Voilà, moi je suis victime d'un harcèlement et d'intimidation avec suite à des médisances. Enfin bon, je ne sais pas d'où ça sort, quoi. Et je ne sais pas quelles sont les raisons. En tout cas, ça se passe chez moi et autour de chez moi. C'est très difficile pour me faire pour qu'on me croie. J'ai essayé de porter plainte 5 fois auprès de la gendarmerie. J'ai fait appel au procureur. Mon bailleur, mais qu'est-ce que vous racontez, ma pauvre dame. Enfin bon, je suis une femme seule. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas mariée. J'ai pas de mec. Je suis pas dragable. Je drague pas. Je suis très souriante. Je suis très pauvre. Et j'ai la joie de vivre et j'aime partager beaucoup les connaissances que j'ai. Apparemment, ça ne plaît pas là où je suis. Je pense que c'est ça. Donc je suis victime d'un harcèlement dans mon appartement, enfin vous vous rendez compte. Et alentour, c'est un tout qui ça dure depuis un peu plus d'un an. Voilà, alors comment sortir d'un harcèlement quand on est pauvre ?
Merci pour votre témoignage, Nina, et pour votre question. C'est quoi la première étape, Zoé Royaux, quand on est chez soi, quand on se sent harcelé, quand on l'est là dans son immeuble, dans son habitation? La première démarche pour une femme comme Nina, c'est quoi?
C'est de déposer plainte. Alors j'entends qu'elle a essayé de le faire à 4 ou 5 reprises auprès de la gendarmerie, mais encore une fois, la gendarmerie ou la police ne peut pas apprécier s'ils prennent ou pas la plainte. Ils la prennent, puis après ils voient avec le procureur qui devient le chef d'orchestre s'il ouvre ou pas une enquête. Et si les policiers font ou les gendarmes font un barrage, eh bien dans ces cas-là, il faut écrire une plainte avec recommander qu'on adresse au procureur. Je lui conseillerais d'aller voir des points d'accès au droit, des avocats qui peuvent intervenir gratuitement, ou différentes maisons de la justice dans les mairies aussi, et des permanences qui sont données par des avocats pour donner des conseils juridiques et savoir comment se constituer des preuves. C'est très compliqué de démontrer le harcèlement, mais de savoir comment se constituer des preuves pour arriver peut-être avec un dossier plus fourni que sa simple parole, malheureusement, auprès d'un commissariat.
Et appeler chez vous, Françoise Brier.
Et puis aussi travailler peut-être avec le bailleur pour demander, en tous les cas, après ces procédures, de pouvoir changer de logement, ce qui est parfois compliqué dans certaines zones, mais voilà, c'est possible aussi quand on a des bailleurs qui peuvent aussi être sensibles aux questions de violence.
Et le problème, nous dit Anne sur franceinter.fr, le problème est surtout qu'il nous faut des preuves, et que faire quand la plainte survient 7, 8 ans, peut-être parfois même bien après les faits, y compris d'ailleurs avant qu'il puisse y avoir prescription. Le problème des preuves, Zoé Royaux, comme vous le disiez, c'est extrêmement compliqué. Alors ça dépend, après il peut y avoir des ITT, des incapacités de travail, etc.
Il peut y avoir des constats médicaux qui ont pu être faits. Le problème, effectivement, quand on dépose plainte à distance des faits, c'est évidemment ce qu'il reste des preuves et des témoignages. Mais regardez Adèle Haenel, alors l'enquête a été faite par Mediapart, dont acte, mais les gens se souvenaient, les gens avaient la mémoire d'eux. Donc on peut avoir des témoins, puis ça c'est le travail des policiers et des gendarmes, dont c'est le métier, dirigé encore une fois par le procureur de la République ou par un juge d'instruction après. Donc ça, il ne faut pas que les victimes se sentent débordées, c'est normal de l'être, mais elle peut venir avec quelques, je sais pas, des textos, des mails, des lettres, ou des témoignages d'amis, de proches qui ont pu assister à l'après-fait.
Je pense que ça veut dire aussi que quand on n'est pas prête à déposer plainte au moment des faits, il faut quand même stratégiquement garder l'ensemble des preuves qui démontrent effectivement les violences subies.
Joëlle nous pose cette question sur franceinter.fr. Elle nous dit: pourquoi Adèle Haenel a-t-elle été soutenue par la profession alors que la jeune femme qui accusait Polanski n'a été soutenue par personne? Polanski est-il intouchable et très connu, contrairement à l'agresseur d'Adèle Haenel? La puissance, ça marche dans les deux sens, Zoé Royaux, évidemment. Est-ce que c'est ça l'idée?
Oui, et d'ailleurs Adèle Haenel le dit, elle dit aujourd'hui: je suis plus puissante que Christophe Ruggia, donc je peux déposer plainte. Évidemment, je pense que le nom de famille de Polanski a plus de poids que celui de Ruggia aujourd'hui. Enfin, j'imagine que c'est ça, je ne sais pas, mais oui, certains sont continués à être protégés, oui, probablement exactement comme Maznev à l'époque, en fait.
Avec une faute, on peut se mettre aussi dans ce lot-là, nous, hein. Est-ce que les femmes réellement anonymes intéressent aussi les médias et vont chercher cette histoire aussi violemment et avec autant d'enquêtes qu'on a pu aller le chercher pour d'autres? Pas forcément, nous aussi, on est évidemment dans ce lot-là également. Les procureurs qui étaient en place au moment de la sortie des livres de Maznev ne devraient-ils pas être mis en cause pour non-assistance à personne en danger? C'est une question pour la juriste que vous êtes.
Ça serait très intéressant. Moi, je trouve qu'effectivement, on ne parle pas suffisamment d'eux et de la politique pénale qui était applicable à l'époque en France, puisque la loi était la même, encore une fois. Donc, oui, ça serait très intéressant de leur demander la raison pour laquelle. Alors, ils peuvent peut-être dire qu'ils ne lisent pas les livres de Gallimard, mais néanmoins, ils étaient informés. Donc, ça serait intéressant, oui. Alors, de là à les mettre en cause comme ça, juridiquement, peut-être pas, mais en tous les cas, à leur demander de s'expliquer. Ouais.
Mais il n'y avait pas de plainte à ce moment-là.
Il n'y avait pas de plainte, mais.
Est-ce que ça remonte dans ces cas-là jusqu'à un procureur lorsqu'il n'y a pas de plainte,
mais
en fait?
Regardez.
Alors ça a été jusqu'au stade des commissariats. Il y a des scènes qui sont absolument ahurissantes,
oui,
d'ailleurs, dans le livre de Vanessa Springora, puisque elle les croise même dans l'escalier, ce qui est totalement hallucinant.
Il lui fixe un rendez-vous quand il veut, parce que là il n'est pas disponible, et après il repart de la brigade des mineurs souriant et libre, bien sûr. Mais il n'y avait pas de plainte, mais encore une fois, aujourd'hui non plus, Adèle Haenel, il n'y a pas de plainte, Springora, il n'y a pas de plainte, les faits sont même prescrits. Donc le parquet ouvre pour chercher l'enquête là, mais il n'y a pas de plainte non plus. Et vous savez, par exemple, l'affaire Fillon, le parquet financier a ouvert une enquête sans plainte aussi. Donc le parquet peut le faire, en fait. C'est une volonté politique, c'est une politique pénale. Le parquet n'est pas un magistrat indépendant, il dépend du ministère de la Justice. Donc c'est une politique pénale, publique.
Le parquet décide de le faire dans ce genre de cas pour Adèle Haenel, pour Vanessa Springora. Il le fait, selon vous, pour quelle raison? Il le fait parce que la pression tout autour est là et que donc c'est effectivement, comme vous le disiez, exactement comme pour Fillon, une réponse politique, c'est ça la seule raison?
Il ne peut pas faire autrement, là. Ça serait très compliqué, donc là, voilà, oui.
Oui, tout à fait. La politique pénale, elle est aussi impulsée parfois par des événements tels que ceux-là.
Une question rapide pour... je ne vois pas son prénom, mais ce n'est pas grave. Sur franceinter.fr, est-ce que la justice protège mal les plus faibles, Zoé Royaux? Vous avez en partie répondu tout à l'heure au début d'émission. Est-ce qu'on vous dirait que la justice protège plus mal les plus faibles?
Oui, je pense que la justice, c'est un peu comme dans la société tout court. Enfin oui, il ne fait pas bon être faible, que ce soit dehors, dans un palais de justice ou dans un appartement dans lequel on peut être harcelé quand on n'a pas d'argent pour se défendre. Oui, la justice protège. Elle ne devrait pas, la loi non. La loi est censée être la même pour tous, mais son application n'est pas la même.
Et puis la question des représentations aussi, bien les sûr. Violences, c'est souvent finalement les catégories socio-professionnelles qui sont défavorisées et pas forcément des catégories socio-professionnelles économiquement plus favorisées. Absolument, et ça, il y a des représentations là-dessus qui sont très intéressantes, y compris dans les lorsqu'on voit des condamnations, parce qu'il y a un emploi, parce que on est dans un effectivement avec une profession plus importante, on va pas forcément avoir la même condamnation en tous les cas que dans d'autres milieux socio-économiques.
Et c'était le sens de la question précédente qui parlait de ces femmes cadres, donc peut-être plus puissantes, qui ne vont pas forcément de toute façon vers vers la justice, aussi parce qu'elles ont d'autres moyens elles-mêmes de se sortir de ces situations-là. Au fond, donc cette différenciation de la justice, elles le ressentent moins, elles le sentent moins. Est-ce qu'on en a conscience de ça, de ce différentiel de la justice, selon, encore une fois, qu'on soit puissant ou misérable ou pas?
Je pense pas, parce que je pense qu'encore une fois, il y a une catégorie qui est plus forte, c'est celle des victimes. Et je pense vraiment que la justice attend qu'elle soit absolument parfaite. Donc qu'on soit cadre, qu'on soit étudiante ou au chômage, je suis pas sûre que ça change le point de vue que la justice aura et la morale qu'elle met aussi. Dans les affaires qu'elle a jugées.
Et alors, en parlant justement de morale et un peu loin, et c'est le sens aussi de cette question, ce qui est remarquable, nous dit cette auditrice, c'est que toutes ces femmes, lorsqu'elles ont du pouvoir et lorsqu'elles témoignent, tout le monde les croit sur parole, personne ne revient sur leur parole. Est-ce que c'est une caractéristique après tout? Est-ce qu'on remet en cause ce que disent ces femmes-là? Est-ce qu'on le remet tout autant en cause qu'on remet la parole de certaines autres?
Non.
Non, je
pense qu'on s'autorise pas à le faire. Personne n'a douté une seconde de la parole d'Adèle Haenel ni de Vanessa Springora. Alors la différence, c'est que Springora c'était corroboré par les écrits de Matzneff. Adèle Haenel, il y a l'enquête de Mediapart, mais c'est vrai que je pense qu'on remet moins en cause cette parole-là.
Oui, mais il y a quand même des critiques, et des tentatives aussi de déstabilisation et de rejet de leur parole, quand même.
Mais c'est vrai que très honnêtement,
moi, j'en ai pas vu
la parole d'Adèle Haenel.
Oui, sur ces deux situations, oui, mais sur d'autres, oui.
De ce même, avec ce même aura, vous voulez dire? Parce que moi, j'ai eu le sentiment justement que la célébrité, mais aussi le côté très carré du témoignage d'Adèle Haenel, comme du bouquin de Vanessa Springora, de toute façon, avait annihilé toute une forme de critique autour. Personne ne revient sur cette parole. Alors, on pose des questions sur pourquoi maintenant, que faisait ta mère, où étais-tu, etc. Ça, oui. Mais sur le fond, on n'a pas entendu de remise en cause. Personne n'a osé remettre en cause ces témoignages.
Non, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont une parole qui est très honnête, parce que Vanessa Springora, elle explique qu'à l'époque, elle pensait qu'elle était consentante, même qu'elle était folle,
bien
amoureuse
sûr,
de lui.
Ouais.
Et Adèle Haenel dit, mais c'était à l'époque, c'était quelqu'un de bien qui m'avait quand même ouvert ces portes-là du cinéma. Donc, elles ont ce qui aujourd'hui serait considéré, si elle ne s'appelait pas Springora et Haenel, serait considéré comme une forme de consentement total de la part des services de police aussi, qui pourrait dire, attendez madame, là vous n'avez pas du tout exprimé à aucun moment votre refus de vous soumettre, donc ça veut bien dire que vous étiez consentante.
J'écoute votre émission en direct de Montréal, nous dit une personne dont je n'ai pas le prénom, Lise, pardon, et je ne peux que me réjouir que les Françaises dénoncent enfin ces agressions trop longtemps tues. Cette question, avoir un nom révèle une société française encore très élitiste et un sujet qui devrait être discuté davantage.
Oui, c'est vrai. Et
je trouve ça intéressant, cette remarque qui nous vient du Canada.
Oui, Denise Bombardier.
Ailleurs, il y a du Denise Bombardier là-dessous, c'est clair. Mais pas seulement, en fait. Une espèce de manière de considérer que dans notre société élitiste, on a finalement du retard par rapport à d'autres et peut-être par rapport aux Canadiens.
Peut-être par rapport aux Canadiens ou aux Suédois, mais je ne sais pas si c'est pareil dans le monde entier. Je crois que les élites ont toujours un...
Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose...
C'est les représentations, dans... ouais, je pense, oui. Hein, de qu'une élite ne peut pas être agresseur...
ou victime.
Victime, voilà. C'est aussi une façon de penser que les violences ne touchent pas tous les milieux socio-économiques, bien sûr.
Mais, et plus largement, qu'elles ne touchent que les milieux très défavorisés, forcément, dans lesquels il y aurait... exclusivement de l'inceste et des violences, bien sûr.
Mais puisqu'on parlait de Denise Bombardier, il y a eu cette idée lorsqu'on a revu tous ces extraits, mais on peut se dire que c'est encore le cas aussi, que nous avons, nous, une manière bien à nous, peut-être, de classer la littérature dans une case et puis le reste dans une autre, cette différenciation existant moins dans d'autres pays, en tout cas moins au Canada, comme s'il y avait une forme de spécificité française aussi, d'une telle adoration de la littérature, au fond, qu'on en oublie certaines choses.
Ouais, après, je pense que c'était quand même propre à un milieu littéraire particulier, peut-être un peu chic et un peu visqueux, d'une époque. Et j'imagine que tous les Français de l'époque ne partageaient pas ce que pouvait ressentir Pivot et n'auraient pas qualifié ces jeunes de minettes. Oui, peut-être ne lisez pas, peut-être, mais en tout cas dans ce milieu-là un peu littéraire, je suis pas sûre que tout le monde partageait ça.
Et dans le milieu du cinéma, il y a eu quand même un tabou partout, même si beaucoup de personnes savaient, et c'est avec l'affaire Weinstein qu'effectivement tout a pu exploser.
C'est vrai qu'en tout lieu, il n'y avait pas beaucoup de Denise Bombardier à l'époque. Non, quelles incidences dans les entreprises, c'est ce que nous dit Maud qui est dans l'Essonne, quelles incidences dans les entreprises ont-elles pris réellement des mesures pour entendre et pour écouter précisément ces victimes anonymes? On ne parle finalement que très peu de l'entreprise, Françoise Brisé.
Ben, je pense qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise, d'abord, il y a des évolutions législatives, il y a des textes internationaux comme la Convention d'Istanbul qui demandent effectivement à ce que les entreprises soient très impliquées dans la lutte contre les violences. Et bon, pour être d'ailleurs, avoir été... déjeuner avec une entreprise ce midi, on voit que les entreprises, en tous les cas certaines d'entre elles, ont envie de s'investir aussi dans la lutte contre le harcèlement sexuel et pas seulement contre les violences conjugales. Donc là, mais c'est effectivement encore trop peu. Il faut qu'effectivement ce monde de l'entreprise s'ouvre encore plus à travers des formations, par exemple de leur RH, des assistantes sociales, des médecins du travail.
Ce qui commence à exister un peu, trop peu.
Mais on sent quand même qu'il y a quand même une implication de plus en plus forte de certaines entreprises aujourd'hui. Ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. Le monde des associations, des victimes était complètement séparé du monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, on voit des passerelles quand même qui sont en train de se faire, et y compris des protocoles aux internes aux entreprises.
Donc, on a eu dans des...
Voilà, mais ça doit se développer, bien sûr.
On a eu dans des émissions précédentes des gens très démunis, en fait, mais démunis, et même au niveau RH, par exemple, ne sachant pas comment faire avec des gens qui étaient harcelés, des personnels, etc. Est-ce qu'on apprend mieux là-dessus? Est-ce que vous avez le sentiment, ou est-ce qu'on vous demande, à vous, au 3919, plus facilement ou pas?
Oui, je pense qu'on a
j'ai
beaucoup
ce type,
de...
j'ai cette femme.
On a beaucoup de femmes, d'ailleurs. On a relevé un certain nombre de femmes victimes qui étaient dans des entreprises et qui demandaient effectivement du soutien. Et quand on fait ces formations auprès des entreprises, on amène effectivement ces témoignages de femmes qui n'ont pas trouvé de l'aide dans l'entreprise. Mais on voit quand même qu'il y a une possibilité aussi pour les femmes de s'adresser aussi aux assistantes sociales qui sont dans les entreprises, aux RH, éventuellement si c'est possible, ou à des collègues de travail, voilà, pour qu'il y ait aussi évidemment la médecine du travail ou les syndicats qui peuvent aussi être des appuis. En ce sens, sur les violences conjugales, c'est un autre problème, mais les entreprises doivent se mobiliser à la fois pour leur permettre effectivement de connaître les lieux ressources en interne, mais aussi en externe, et ensuite travailler en partenariat avec les associations. Mais ça, c'est un grand chantier, mais qui commence.
Voilà, donc puissante ou pas, en tout cas, c'est ce qu'on essaiera de retenir de cette petite heure passée ensemble. Merci beaucoup pour vos nombreuses questions et portez-vous bien.